cap, des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Franf, le magazine des radios associatives du Nord de la France. Le principe de l'émission est très simple, nous recevons chaque mois un invité qui réagit à des reportages de terrain sur une question de société. Pour ce second numéro, Agathe Doisy de RPL, René Lavergne de Radio Campus et Nicolas Bunier de PFM. Nous sommes à quelques jours du lancement officiel des commémorations en région de la Première Guerre mondiale. François Hollande inaugurera d'ailleurs ici le plus grand monument gravé au monde. Ce sera le 11 novembre prochain. On a pu voir depuis juillet dernier différentes formes de commémorations autour de cette Première Guerre mondiale. Expositions, livres, chansons et j'en passe. Ça a été une véritable aubaine pour les professionnels du tourisme, les éditeurs, les producteurs, à se demander si l'histoire avec un grand H n'est pas devenue un simple bien de consommation. Et la question, et même les questions que l'on se pose aujourd'hui concernant ce centenaire de la Grande Guerre, le Nord en fait-il trop ? Comment entretenir une mémoire, la mémoire de la Première Guerre mondiale, sans tomber dans la surenchère émotionnelle, la dérive marchande ou l'inflation de la mémoire ? Pour y répondre, notre invité, c'est Yves Le Manneur. Bonjour.
Bonjour.
Alors Yves Le Manneur, vous êtes historien-chercheur, ancien directeur de la Coupole, un musée historique dans l'Audomarois, et vous êtes en charge des commémorations de la Première Guerre mondiale pour la région Nord-Pas-de-Calais. On vous surnomme même Monsieur Centenaire. Et ce qui est assez intéressant, Yves Le Manneur, ce qui est assez curieux même, c'est que vous êtes en charge des commémorations, de la Première Guerre mondiale, alors que votre métier d'historien, vous êtes spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale. Ma première question, c'est pourquoi, comment on passe d'une guerre à l'autre ?
On passe d'une guerre à l'autre lorsqu'au bout de 30 ans de recherche, on a le sentiment d'avoir fait le tour de la question en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2006, je consacre tout mon temps de recherche, qui signifie des centaines et des centaines d'heures en archives, à étudier la Première Guerre mondiale dans l'espace géographique du Nord-Pas-de-Calais. Voilà comment on passe de l'une à l'autre.
Alors, le programme des commémorations dans la région Nord-Pas-de-Calais est chargé, on l'a vu et on le verra encore. Est-ce que c'est à l'image de ce qu'a vécu la région Nord-Pas-de-Calais durant ce conflit ?
Il est clair que le Nord-Pas-de-Calais a été l'un des théâtres majeurs de la Première Guerre mondiale, puisque le front s'est installé d'Armentières à Bapaume dès le début du mois d'octobre 1914, et il y est resté plus de 50 mois. Il y a une deuxième donnée qui est très importante de rappeler, c'est que l'essentiel du département du Nord, et les villes principales comme Lille, comme Douai, comme Cambrai, comme Valenciennes, ont été occupées par l'armée allemande au cours de la Première Guerre mondiale, une occupation particulièrement rude. Autre phénomène qu'il faut souligner, c'est que le Nord-Pas-de-Calais constitue la région la plus détruite à l'issue de la Première Guerre mondiale, puisque près de 300 villages ont été totalement anéantis.
Alors, vous le disiez, vous revenez d'un rendez-vous avec la directrice du cabinet de l'Élysée, c'est bien cela ?
En effet.
Justement, François Hollande qui va inaugurer dans quelques jours l'anneau de Notre-Dame de Lorette. Tout se passe bien ? Tout roule protocolairement ?
Tout se passe très bien.
Pas trop stressé ?
Pas du tout. C'est une opération qui est extrêmement complexe, bien sûr, parce qu'elle engage l'image de notre pays par rapport aux pays voisins, aux pays amis. D'autre part, il y a bien évidemment des conditions de sécurité très strictes qui doivent être mises en œuvre, et ce le sera.
Pour qui, des conditions de sécurité très strictes ? Est-ce qu'on a une idée des personnalités qui vont venir ici dans la région ?
C'est pas seulement pour les invités de marque, c'est pour l'ensemble des personnes qui assisteront à cette cérémonie.
Et donc je vous repose la question, est-ce qu'on a une idée de quels chefs d'État ou politiques ou quelles personnalités seront présentes ?
À l'heure actuelle, on ne le sait pas encore. Il y aura des représentants de haut niveau qui représenteront le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays qui furent impliqués dans le conflit.
On ne sait pas ou on ne peut pas le dire ?
Les deux.
Très bien. Les commémorations de la Première Guerre mondiale se sont déroulées tout au long de l'année, ici dans la région et même partout en France. Le point d'orgue de ces manifestations, on vient de le dire, c'est le 11 novembre. Qu'est-ce qu'on choisit de commémorer ? Qui choisit ? Quels sont les enjeux, les objectifs de ce travail de mémoire en France et ici dans la région ? Un reportage de René Lavergne.
Dans cette période de commémoration, nous ne poursuivrons qu'un seul objectif, nous souvenir ensemble pour être plus forts ensemble. Voilà le grand dessein de l'année 2014 face à ce qui va être autant de traces retrouvées de notre histoire.
Fleur au fusil, tambour battant, il va.
Il est des anniversaires qui s'inscrivent dans l'histoire.
La commémoration du centenaire de la guerre 14-18 se devait de marquer son temps, sinon son siècle. Pour ne pas manquer ce rendez-vous, on s'organise à tous les échelons, national, régional, local, impossible d'y échapper. Face à cette inflation d'événements, certains agissent, d'autres réagissent, il en est même qui réfléchissent. Élise Julien, historienne, chercheuse à l'IRIS, Université Lille 3, revient sur les temps forts organisés en 2014.
Pour 2014, il y a eu toute une série d'événements hein, qui se sont déroulés et qui ont commencé dès le mois de juin avec la commémoration de l'attentat de Sarajevo, donc quelque chose d'international. Ensuite, avec le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, un défilé avec des délégations des anciens belligérants ou des pays issus des anciens empires belligérants. Il y a eu également une commémoration à tonalité franco-allemande le 3 août en Alsace. Il y a également eu le 12 septembre une commémoration de la bataille de la Marne avec là vraiment une accentuation de la signification nationale à la fois du lieu à Mondement et également de l'événement, hein, donc l'arrêt des troupes allemandes. Et puis le 11 novembre 2014, donc centenaire d'on ne sait quoi, hein, puisque 11 novembre 1914, il ne s'est rien passé de remarquable de ce point de vue-là, mais donc une cérémonie partagée entre l'Arc de Triomphe à Paris, la tombe du soldat inconnu, et puis Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais, ce qui montre bien le poids de la guerre pour la région, Nord-Pas-de-Calais, et en même temps sa signification plus générale à l'échelle du pays, 100 ans après.
Donc parmi ces manifestations, il y a des événements qui sont inscrits dans un plan, on va dire, qui a été mûrement réfléchi, national, voire régional parfois, puis il y a aussi les initiatives locales. Est-ce que tout cela, ça cohabite? Est-ce qu'il y a une cohérence?
Oui, tout cela cohabite très nettement. Les dates que je viens de vous donner correspondent à des commémorations nationales qui ont été préparées en amont, qui ont été planifiées, qui sont organisées autour de temps forts vraiment étatiques, ce qui n'enlève rien aux initiatives locales qui sont extrêmement nombreuses. Et on voit cette cohabitation au sein de la mission du centenaire. La mission du centenaire, c'est un groupement d'intérêt public qui a été mis en place en 2012, juste avant l'élection présidentielle, mais qui a été maintenu sous François Hollande et qui était chargé de préparer le cycle commémoratif à l'échelle du pays, hein, donc préparer, donner des conseils en quelque sorte sur l'organisation des commémorations nationales, et qui est chargé également de recevoir les projets venus de la société civile pour faire un petit peu le tri et labelliser ce qui semblait le mériter à un comité d'historiens. Et cette labellisation, c'est un gage de qualité, c'est aussi pour leur donner une visibilité. Et on voit que dès la première vague de labellisation, il y a eu plus de 1000 projets qui ont été retenus sur 1500 à peu près envoyés. Là, on est à plus de 1700 projets labellisés. Voilà. Il y a une estimation qu'on a faite récemment à la mission du centenaire. On aurait reçu à peu près un projet sur cinq des projets initiés dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc ça démontre aussi des initiatives extrêmement vastes et dans tous les départements, hein, pas ceux de l'ancien front, mais aussi bien plus loin, voilà, sous la perspective de la vie quotidienne sur place, de la vie des populations, de la production en guerre, etc., etc.
Élise Julien, donc vous, en tant qu'historienne, est-ce que vous étiez consultée par rapport à ce plan, à ce projet de commémoration?
Oui, dans la mesure où je fais partie du comité scientifique de cette mission du centenaire. Donc il regroupe une trentaine d'historiens, il se veut international, mais de fait il y a une immense majorité de Français, hein, il y a deux Allemands et deux Anglo-Saxons. Donc voilà, c'est une ouverture qui est quand même assez modeste sur l'international. Et donc dans ce cadre-là, nous avons eu des réunions, nous avons fait des propositions dont on voit qu'elles sont parfois suivies des faits et parfois pas.
Est-ce que dans les projets que vous avez vus passer, qui ont été recalés par cette mission, certains vous semblaient un peu curieux, voire contre nature, et est-ce que ceux-ci sont maintenus néanmoins au-delà de votre label ?
Alors, globalement, les projets qui n'ont pas été retenus sont ceux des reconstitutions historiques, qui sur le plan historique, paraissait pas pertinent. Certains ont néanmoins vu le jour et certains ont connu un gros succès auprès du public. C'est le cas du bivouac qui a été organisé le 14 juillet après-midi sur le Champ de Mars, qui n'avait pas reçu le label de la mission du centenaire, auquel pourtant s'est arrêté François Hollande, et qui a connu un record de fréquentation avec des faux poilus déguisés en soldats de l'armée roumaine, de toutes les armées, de l'armée française évidemment, reconstitution de toutes les scènes en fait de la vie quotidienne, les taxis de la Marne, enfin on avait tout un tas de choses qui relèvent largement de mythes hein, ou de choses qui sont restées dans les esprits mais qui n'étaient pas forcément exactement conformes à la réalité historique et qui ont connu le succès, avec des remarques assez goguenardes hein, des organisateurs, nous faisant remarquer qu'ils n'avaient pas été labellisés.
Des hommes, il en faut toujours.
À défaut de pouvoir être une année historique, 2014 sera donc commémorative. Et qu'on se le dise, il y en aura pour tout le monde.
On a peur encore des souffrances.
Tant d'autres sont morts pour la France.
Pour la France. Pour la France. Pour la France.
Reportage signé René Lavergne de Radio Campus, qui recevait Élise Julien, maître de recherche en histoire contemporaine à l'IUP de Lille, l'Institut d'études politiques. Vous êtes toujours dans Parlons Franf, le magazine de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, magazine mensuel. Avec nous, Yves Lemanneur, monsieur centenaire en charge des commémorations de la Première Guerre mondiale pour la région Nord-Pas-de-Calais. On écoutait à l'instant, justement, Yves Lemanneur, le reportage de René Lavergne, qui se termine sur une musique de Vincent André, La fiancée du poilu, une comédie musicale locale. Il y en aura pour tous les goûts, c'est ce que disait René dans son reportage. On l'entend bien à l'instant avec cette comédie musicale. Il y a un peu à boire et à manger, comme on le dit familièrement. Comment on choisit de commémorer ? Est-ce que c'est facile de concilier l'émotionnel et la compréhension historique ?
C'est pas simple, mais il faut voir que la commémoration, elle vient de la société. Il y a le cadre étatique qui donne les grands moments commémoratifs de l'année 2014, ça a été fixé, longuement réfléchi, mais il y a une puissante demande qui émane de la base. Ces milliers de projets au niveau des communes, au niveau des communautés d'agglomération, c'est quelque chose de spontané, personne ne l'a demandé, personne ne l'a dicté, et ça vient du tréfonds de la société française, parce que chaque famille a été concernée par la mort de masse qui a frappé la nation entre 14 et 18. Donc ça prend ensuite de multiples aspects, mais moi ce qui m'a frappé, c'est à la fois la diversité et la qualité de nombre de projets. Il y a des choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui ne le sont pas. Je prends un exemple. On a vu dans le Poitou une association qui s'occupe de l'élevage des mulets. Ça peut paraître dérisoire, et pourtant, en 14-18, ces animaux étaient utilisés à l'arrière du front pour transporter les munitions. Donc on a voulu réfléchir à l'apport des animaux dans la guerre. À d'autres endroits, on va suivre la corde des poilus qui ont quitté leur village et qui se sont égayés sur le front pour trouver la mort pour beaucoup d'entre eux. Tout ça, c'est des initiatives spontanées. Et donc la diversité, on la trouve parce qu'il y a eu des publications, parce qu'il y a des pièces de théâtre, parce qu'il y a des retransmissions musicales, parce qu'il y a tout un travail collectif qui est sorti de la nation française.
René Lavergne, vous vouliez réagir.
Oui, alors justement par rapport à toutes ces morts hein, sur cette guerre qui était vraiment sanglante, une des plus, je pense, la plus cruelle dans notre région, tout au moins. On parle beaucoup maintenant de personnes qui seraient mortes pour rien, ou du moins on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'on peut faire le point actuellement ?
Il y a eu une évolution au cours du siècle qui vient de s'écouler, c'est que le discours sur les morts a changé. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France, qui avait été saignée à blanc par le conflit, a transformé ses morts en héros. C'était aux héros disparus, aux morts pour la France. Or, depuis un siècle, l'opinion publique a évolué. Elle a pris conscience de la tragédie que constituait la guerre en termes de destruction des compétences humaines. Et donc maintenant, ces morts de 14-18 sont devenus des victimes, ce qui est explique pourquoi il est plus facile aujourd'hui de rapprocher dans une même démarche amis et ennemis d'hier. Parce que les soldats, fussent-ils français, fussent-ils allemands, fussent-ils britanniques, ont tous souffert des mêmes difficultés pendant ce conflit. Donc vous voyez, le regard que la société porte sur cet épisode de notre histoire, il a changé au cours d'un siècle.
Et entre 14-18 et 39-45, il y a une profonde différence de nature par rapport justement à la valeur de la mort et la mise un peu en cause de ce sacrifice quelque part qui a été parfois inutile.
Alors, il y a une différence fondamentale entre les deux conflits. C'est que dans la Seconde Guerre mondiale, le plus grand nombre des victimes, ce sont des civils qui sont victimes des bombardements en particulier. Mais ce qui, à mon avis, a beaucoup changé, c'est que la tragédie qu'a été 14-18 pour la société française explique en grande partie pourquoi la France s'est effondrée en 40. La nation n'était pas prête à subir la même violence.
Merci René, merci Yves Le Meneur, monsieur Centenaire dans la région Nord-Pas-de-Calais. On se retrouve dans quelques minutes sur Parlons France. On écoute tout de suite Georges Brassens, la guerre de 14-18. À tout de suite.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Vous êtes toujours dans Parlons Franf, le magazine d'information des 16 radios associatives du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes avec Yves Le Meneur, monsieur Centenaire dans la région, avec qui nous parlons des commémorations de la Première Guerre mondiale. Et justement, l'un des éléments forts de ce centenaire dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est un tout nouveau monument unique en son genre, c'est l'anneau de Notre-Dame de Lorette. Il doit être inauguré prochainement, ce 11 novembre précisément, par François Hollande, en présence de nombreuses personnalités que l'on ne connaît pas pour le moment, Yves Le Meneur. Nicolas Bunier, vous êtes allé sur place.
Oui, je vous emmène aujourd'hui sur cette colline de Lorette, l'une des belles collines de l'Artois, entre Arras et Béthune. On part de la commune de Souchet et en se dirigeant vers la nécropole Notre-Dame de Lorette, on tombe nez à nez avec une étrange forme, pas un cercle mais une ellipse. C'est l'anneau de la mémoire, son nom officiel, le mémorial de Notre-Dame de Lorette.
Bonjour. Vous habitez dans le coin en fait ?
Non, on est randonneur, on vient de Vimines.
Vous venez régulièrement ici, vous promenez ?
Oui, régulièrement, oui.
Alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là, de ce mémorial à Lorette ?
Moi je suis très déçu parce que l'architecte avait dit que ça ne dépasserait pas la hauteur des croix du cimetière. Alors, on voit d'ici que ça dépasse largement et que nous on est attiré par le paysage de Mont-Saint-Éloi et tout ça, mais on ne voit plus rien.
Oui, ça coupe un petit peu la vue de ce côté-là, quoi. Mais enfin, c'est tout de même une belle réalisation. Hein. C'est une ellipse.
Eh bien, on est sur une colline où la nature a repris ses droits après avoir été détruite par la guerre. Hein.
Philippe Prost, architecte et concepteur de l'anneau de Lorette.
Quand on regarde les photos anciennes, on voit que cette colline se présente comme un paysage de Mars, où il n'y a plus une herbe, plus rien, plus un mur, absolument plus rien. Et donc la nature a repris ses droits et je voulais que ce monument, il s'inscrive dans cette nature apaisée, et qu'il produise aussi un effet de paix, de sérénité, de fraternité. Donc de la fraternité, c'est déjà, d'une certaine manière, elle est dans l'ADN du monument, puisqu'il s'agit de mettre par ordre alphabétique les 600 000 noms des combattants, hein, sans distinction de pays, de race, de religion, de grade, d'années où les soldats sont tombés au champ de bataille. Donc c'est vraiment, on démarre à la lettre A et puis on finit à la fin de l'alphabet. Et on a là, pêle-mêlé, des gens qui sont venus se battre sur le territoire pendant des 5 continents de la planète. Donc c'est très impressionnant.
De toute façon, tout le monde était victime. Nous, on vient souvent parce que moi, mon grand-père a fait l'attaque de Vimy en partant d'ici. Et on retrouvait, et c'est à peu près à l'endroit, ils passaient la tranchée où ils ont attaqué Vimy, c'était à peu près à l'endroit du cercle.
Vous êtes venu en vélo ici, vous promenez régulièrement sur ces collines ?
On se promène régulièrement, mais on vient surtout voir un peu l'avancement des travaux, parce que c'est quelque chose qui nous touche quand même à cœur, hein, de voir qu'il y a des heureuses initiatives pour perpétrer le souvenir de nos glorieux anciens. Donc on vient régulièrement voir l'avancement des travaux.
La paix retrouvée à travers cette fraternité, ces noms qui sont gravés sur des panneaux qui sont comme les pages d'un livre, ou les plis de la mémoire d'une certaine manière. Et puis aussi cette idée d'une fragilité de la paix, parce qu'on sait tous que la paix, elle est, on l'a gagnée, mais elle peut s'évanouir. Cette fragilité, je voulais qu'on la ressente physiquement, qu'on la ressente émotionnellement. Et là, c'est aussi la nature, la déclivité du terrain qui m'a permis d'évoquer cela, parce qu'à un moment donné, on va marcher dans cet anneau et on va marcher au-dessus du vide, sur une passerelle, depuis laquelle on va découvrir Vimy, le mémorial canadien, depuis laquelle on va découvrir à Blain-Saint-Nazaire, où on va découvrir Saint-Éloi en ruine.
Mais pour nous, c'est une belle réalisation. Hein. On en parlait tout à l'heure avec les copains, il faut à tout prix qu'il y ait des témoignages et des choses qui restent pour les générations futures, parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à vouloir tout jeter. Et là, c'est vachement important pour nous.
Alors pourquoi il faut se souvenir alors ?
Ah bah pour plus qu'on retrouve à nouveau des guerres. On a des guerres sur d'autres formes, hein, mais là, c'est vraiment quelque chose qui a compté pour toutes les nations qui ont dû malheureusement y participer. Hein. Quand on voit le nombre de morts, le nombre de personnes inscrites sur l'anneau, ça donne à réfléchir quand même.
Donc, la fragilité de la paix, et puis aussi la puissance du monument, son extraordinaire présence dans le site, et en même temps, sa forme de grande légèreté. Car quand on passe sous l'anneau, on a au-dessus de sa tête plusieurs centaines de tonnes de béton fibré à ultra haute performance. Et je pense qu'on a le sentiment d'être sous quelque chose de très léger, de très aérien. Et donc là, c'est une question de dessin, de design, c'est-à-dire dessiner les pièces de l'ouvrage pour qu'elles soient élégantes, pour qu'elles donnent une impression de régularité, de sérénité dans le paysage.
On a rencontré des gens qui étaient contre ce genre de construction en souvenir des anciens. On essaye de leur expliquer aux anciens. S'il faut l'expliquer aux anciens, il faut l'expliquer aux jeunes. Il y a du boulot. Hein.
Pourquoi ils trouvent que ça coûte trop cher, c'est ça ?
Oui. Ah oui, bon. T'as des gens, ils voudraient que l'argent soit dépensé autrement. Mais c'est vachement important. Hein. On dépense assez d'argent sur d'autres choses plus futiles encore. Mais là, c'est vraiment le respect de la mémoire qu'il faut marquer.
Alors le monument, il a été construit pour la région du Nord-Pas-de-Calais. Il est sur un terrain qui a été donné par le ministère de la Défense français à la région du Nord-Pas-de-Calais pour le construire, à côté de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, qui est la plus grande nécropole nationale de la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'est la région qui entretiendra ensuite ce monument, puisqu'il lui appartient.
Aujourd'hui, dans une situation... dans notre région économiquement gravement touchée.
David Robillard, passionné de la Grande Guerre et membre du collectif Artois.
Il aurait peut-être été préférable de faire peut-être quelque chose d'un peu plus petit quand même, parce que ça coûte beaucoup d'argent quand même, quoi. C'est bien d'avoir fait ça, c'est bien d'y avoir pensé et d'avoir réconcilié les pays. Mais bon, il y y a quand même un sentiment partagé, quoi. Je sais que dans les, il y a beaucoup de tombes qui sont en train de se détériorer dans les petits cimetières militaires, dans les cimetières communales. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'occuper de tous les anciens monuments, les rénover, quoi, avant?
David Robillard, membre du collectif de l'Artois, au micro de Nicolas Buinier. David Robillard, visiblement pas très content du coût lié à ce monument. Avant de parler du coût, Yves Le Manneur, revenons sur cet anneau de Notre-Dame de Lorette qui rassemble 600 000 noms, on l'entendait tout à l'heure, sans distinction de nationalité, de grade, de religion. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on réunit autant de noms?
On réunit autant de noms à l'issue de 2 années de travail et de collaboration avec les instances étrangères, avec la Commonwealth War Grave Commission, avec le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pour les Allemands. Ça a été un travail de longue patience pour constituer des listes de soldats venus de la terre entière. Il y a des Inuits canadiens, des Maoris, des Sud-Africains, des Noirs africains, des Indiens, des Français bien sûr, des Allemands, des Britanniques. Donc on a réuni ces listes, on les a fusionnées par ordre alphabétique simple. Et c'est la première fois que ça se fait sur la planète, parce que tous les mémoriaux qui ont été réalisés avant, tout au long du XXe siècle, l'ont été selon un critère national. Or, n'oublions pas que la Première Guerre mondiale s'est déclenchée à cause des affrontements nationalistes en Europe, et que ça a coûté 10 millions de vies humaines. Un siècle après, on vit en paix pour la première fois sur notre continent depuis très longtemps, et il s'agit de ne pas l'oublier, parce que c'est pas quelque chose d'acquis. Il faut toujours rappeler, raisonner. La raison finira par avoir raison, disait Diderot. C'est une belle phrase.
Nicolas Buinier.
Bon, on parle du coup à 8,5 millions d'euros. C'est le prix de cet anneau de mémoire. C'est pas un peu cher, Yves Le Manneur?
Alors, c'est très facile de répondre à cette question. Si on s'amuse à diviser 8 millions d'euros par 580 000 hommes, quel est le coût unitaire de cet objet? C'est dérisoire. 8 millions d'euros, c'est le coût du transfert d'un joueur moyen de football en division 1. Est-ce que c'est la même échelle? Là, on évoque la mort de jeunes hommes qui avaient des talents formidables, manuels, intellectuels, qui ont été balayés par la violence des guerres. Rappeler ça, c'est quelque chose d'utile pour nos sociétés. Au moment où il peut y avoir des voix qui appellent au retour de la violence. L'Europe ne veut plus de ça.
Alors, dans le reportage, on a entendu des interrogations sur le changement du paysage de la colline, des inquiétudes aussi vis-à-vis de l'entretien des tombes, des monuments. Est-ce que l'argent va là où il le faut?
Alors, première réponse en ce qui concerne le respect du paysage. C'est une norme qui a été imposée par l'architecte des bâtiments de France. Et contrairement à ce que dit l'un de vos témoins, le monument ne dépasse pas la hauteur des croix. C'est toujours l'illusion d'optique quand on est sur un terrain plan. Quant à savoir si l'argent est bien utilisé, ma réponse, elle est très simple. Quand vous regardez la qualité de l'entretien des 1000 cimetières militaires que les Britanniques entretiennent sur le sol du Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose d'admirable. Le gazon est tondu, c'est une pelouse comme à Wimbledon, c'est fleuri, c'est d'un entretien admirable. Les Allemands en font autant dans la dizaine de cimetières qu'ils entretiennent sur le Nord-Pas-de-Calais. Or, en France, pendant plusieurs décennies, l'État a négligé les lieux de mémoire. On a rétabli les conditions normales de Notre-Dame de Lorette seulement depuis les profanations qui ont eu lieu sur le carré musulman de Notre-Dame de Lorette il y a quelques années. Ce qu'il va falloir également poser à la société, c'est l'entretien des tombes des hommes qui ont été rapatriés dans leur village. On arrive maintenant à la prescription centenaire. Que va-t-on faire de ces tombes? Donc l'observation de votre interviewé n'est pas cohérente. C'est à la société tout entière de répondre à l'exigence de commémoration nationale.
L'entretien de Lorette, jusqu'ici, ce sont toujours les gardes d'honneur qui s'en chargent, hein, si je ne dis pas de bêtises. Eux, enfin, en tout cas, une partie d'entre eux, ne sont pas forcément très enthousiastes par rapport à cet anneau de mémoire. Et puis, on a vu aussi, on a pu lire dans la Voix du Nord, pas très enthousiastes vis-à-vis de la place qu'il aurait laissée dans le protocole du 11 novembre.
Alors, je vais me permettre de faire une rectification. La nécropole de Notre-Dame de Lorette n'est pas entretenue par les gardes d'honneur. Elle est entretenue par le pôle des sépultures de Metz, c'est-à-dire par l'État, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État aux anciens combattants. Le rôle des gardes d'honneur est d'accueillir les visiteurs sur le site de Notre-Dame de Lorette. C'est une association qui a été créée dans les années 20, qui compte près de 4000 membres aujourd'hui. Ensuite, le jugement que chacun peut avoir sur ce mémorial, il doit être fondé sur la connaissance des lieux. Or, jusqu'à preuve du contraire, le monument n'est pas encore accessible au public. Il le sera au soir du 11 novembre. J'ai échangé très fréquemment avec des gardes d'honneur. J'ai entendu tous les jugements possibles sur ce mémorial, sans que personne ne l'ait vu. Ça, c'est un problème récurrent dans nos sociétés où la rumeur souvent l'emporte sur l'information.
Dans la presse régionale, toujours, à chaque fois qu'on a parlé de cet anneau de la mémoire, on a parlé aussi des enjeux touristiques. Alors, est-ce que pour la région, ces commémorations, c'est aussi une forme d'aubaine touristique ?
Alors, j'aime pas du tout le mot aubaine, parce que ces commémorations, elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites étymologiquement pour évoquer la mémoire d'hommes disparus qui ont été rayés de la terre par la violence guerrière. Ensuite, que l'accueil de dizaines de milliers de visiteurs dans la région permette à des gens de vivre du tourisme de mémoire, c'est évident. Mais ce tourisme de mémoire, il n'est pas né maintenant. Il est né au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque des centaines de milliers de gens, des familles des victimes, sont venus sur les champs de bataille. On a créé des guides de visite dans les années 20. On a organisé des tours spécialement sur les champs de bataille. On a aménagé des hôtels spécifiques pour recueillir les pèlerins de la mémoire. Simplement, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les gens viennent sur les lieux, non pas en tant que pèlerins, mais pour comprendre cette tragédie, pour essayer d'y réfléchir.
Une dernière question, René Lavergne.
Oui, alors ce tourisme de mémoire, hein, qu'il soit celui du bassin minier, hein, qui est maintenant bien entré dans l'histoire et ancré dans l'histoire, et celui bien sûr du tourisme de guerre, est-ce que ces tourismes, entre guillemets, servent l'histoire ?
Moi je pense que ces tourismes servent l'histoire, tout simplement parce qu'ils établissent la continuité des générations. Aucune nation ne peut vivre sans le continuum des générations. Vous savez, notre société actuelle, elle est un petit peu schizophrène, elle compare tout à l'échelle d'une année. Qu'est-ce qu'une année dans une existence humaine ? Là, on est sur le long terme, sur un siècle, sur plusieurs générations. Et donc, en réfléchissant, en venant sur les lieux, on est amené à se poser des questions fondamentales sur la vie sociale, sur l'engagement des hommes, sur l'évolution d'une nation à travers le temps. Et donc, je pense que ça sert profondément à l'histoire de notre pays.
Merci René Lavergne, merci Nicolas Bunier, merci Yves Le Manneur. On se retrouve dans quelques minutes sur Parlons Franf, à tout de suite.
Quand au bout du jour, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Un sanglot, on dit adieu au sifflot. Mais me sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu tout à sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied venu pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre,
sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
De retour dans Parlons Franf, le magazine d'information de la Fédération des radios associatives du nord de la France. Notre invité, c'est Yves Le Manneur, monsieur centenaire en région. Ça va toujours, Yves Le Manneur ?
Ah, très bien, oui, on passe un très bon moment ensemble.
À l'instant, c'était la chanson de Craon, en tout cas une version récente proposée par les Amis de ta femme. C'est la chanson des Mutins de 1917 qui nous invite tout naturellement à évoquer les oubliés de la Grande Guerre et notamment des fusillés pour l'exemple à travers une histoire incroyable racontée par Odette Hardy-Emery, professeure d'histoire à l'université de Lille 3, dans un livre « Fusillés vivants » présenté mi-septembre à Lille, une enquête historique basée sur un certain nombre de lettres écrites par un soldat mort deux fois. Alors Agathe Doisy, qui est cet homme ?
Cet homme, c'est François Waterloo, un réserviste valencinois de 26 ans qui participe au début de la guerre à la bataille de la Marne. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914, pris sous le feu ennemi, son régiment, le 327e d'infanterie, recule sous la pression du 270e avec lequel il se mêle. Alors qu'ils essaient de réintégrer leur régiment, François Waterloo et six de ses camarades tombent nez à nez avec le général Boudegour. Celui-ci les accuse d'abandon de poste.
C'était pas du tout ça, parce qu'il n'y avait même pas eu de rencontre avec l'adversaire, avec l'ennemi. Ils sont enfermés et le lendemain, sans être prévenus, sans procès, les soldats sont emmenés pour être exécutés.
On nous emmena en face d'une meule, on nous banda les yeux et l'on plaça une section d'environ 39 hommes à 12 mètres de nous. J'étais placé à droite et nous nous étions donné la main à l'un l'autre. À la première décharge, je me laissais tomber, mais je n'avais rien. Puis l'on fit retirer une fraction du peloton sur ceux qui bougeaient encore. Ensuite, l'adjudant qui était là vint pour nous donner le coup de grâce en nous logeant une balle dans la cervelle. Il commença par la gauche et quand il eut tiré sur les deux premiers, il dit au capitaine qui commandait qu'il ne pouvait plus continuer, que ça lui faisait trop de peine. Le capitaine lui dit de s'assurer si nous étions bien morts et en passant, il nous fit bouger en nous pressant par les épaules. Ce n'était pas le moment de bouger.
2 heures après, il se relève, tout le monde est parti, il rejoint son régiment et là, ses chefs directs intercèdent auprès de Boutegour et il est gracié. Boutegour ne peut quand même pas le faire refusiller. Et il dit qu'il fasse son devoir et que cet homme se conduise bien. Et il sera tué au combat d'ailleurs, bien sûr, en juin 1915. Alors les suites ? Eh bien, les suites, il faut attendre 1917 pour que cette affaire soit révélée.
Cette affaire est connue à partir de 1919-1920, avant on ne sait rien. Quand cela est connu, l'opinion est absolument révulsée. Et donc il y a une longue campagne entre 21 et 26 de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'autres associations, l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, qui se joignent ensemble et qui préviennent l'opinion publique. L'opinion publique a joué un grand rôle pour la réhabilitation et il faut attendre 1926 pour qu'un tribunal soit formé pour réexaminer ces cas. Mais donc son affaire vient en jugement et là il est réhabilité.
Après la guerre, mon ami, tu iras trouver mon frère et tu lui diras que je ne suis pas mort à la guerre, mais que j'ai été assassiné. Donc on se rend compte à cette requête que les fusillés savent que la mort atroce qui leur est imposée, être tués par ses camarades, va être dissimulée et que leur calvaire va être nié. Et tout ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'est qu'au début de la Grande Guerre, 7 septembre 1914.
Ben, l'état-major de cette époque, et qui n'est pas toujours très différent aujourd'hui, ne tenait certainement pas à ébruiter cette affaire scandaleuse, quoi. Il y a eu aussi une part d'ignorance quand même volontaire de rechercher plus avant ce qui s'était réellement passé pour qu'on en vienne à cette exécution totalement arbitraire.
La vue d'une année que dans les Français, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas.
Il y a une sorte quand même de consensus avec le milieu militaire qui fait que le milieu politique ne veut pas trop le heurter. Quoi. Ils ont dit des choses, mais ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout.
Pour Antoine Pro, président du conseil scientifique de la mission du centenaire et rédacteur du rapport « Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 », un point de vue historien, il serait faux de dire, je cite, que le sujet était à bout et que la République n'a rien fait.
C'est à la fois vrai et à la fois faux. Il est un peu au milieu du guet, Antoine Prost. Hein. Évidemment, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais tout n'a pas encore été fait, parce qu'il se peut qu'il y ait encore des affaires comme ça, qu'on connaisse mal ou qui sont restées dans l'ombre. Le travail des historiens n'est jamais terminé, il n'est pas fini d'ailleurs, c'est heureux, oui.
Il suffit de regarder le rapport d'Antoine Pro qui a été remis, il y a 4 possibilités.
Daniel Dubois, président de la Fédération du Nord de la Libre Pensée, partisan d'une réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple.
Une réhabilitation au cas par cas, une réhabilitation collective. Alors là, vous avez la montée, vous n'avez qu'à regarder sur Internet la liste des associations d'anciens combattants qui, là, est élevée de boucliers. Un lieu de mémoire, le troisième. Et quatrième, on fait rien. Quatrième, on fait rien.
Il faut que cette place soit respectée, revalorisée et bien servie. Le président de la République est quand même, il a une forte responsabilité par son influence sur l'opinion. Il peut aussi faire ressurgir pas mal de choses, inciter à ce que l'on connaisse. Donc ses paroles sont importantes de ce point de vue-là, très importantes. Elles peuvent porter, elles doivent porter.
Bon, nous, ce que l'on essaye de faire actuellement, c'est de lancer une souscription pour mettre un monument à la mémoire des fusillés, pour l'exemple, quelque part sur le chemin des Dames. On a un lieu, on a pris contact avec un maire, on ne donne pas le nom du maire, on ne donne pas le nom du lieu. Bah oui, parce qu'il y aura des pressions.
Voilà, merci à tous ceux qui s'intéressent à cette reconnaissance et à cette histoire tragique.
Odette Hardy-Emery applaudit par les amis du monde diplomatique devant lesquels elle présentait son dernier ouvrage « Fusillé vivant », un reportage signé Agathe Doisy pour Parlons Franf. Justement Agathe, vous qui avez rencontré Odette Hardy-Emery, vous vouliez faire réagir Yves Le Manneur sur le rapport d'Antoine Pro évoqué dans le reportage.
Tout à fait, justement je voulais vous demander quel est votre point de vue selon vous, que faut-il faire ?
Je pense que le rapport d'Antoine Pro est tout à fait équilibré. Contrairement à ce que l'on pense, les fusillés n'ont jamais été oubliés. Ils n'ont pas été oubliés par leur famille. Il y a eu des campagnes extraordinaires de certaines veuves dans les années 20 pour réhabiliter leur homme qui avait été injustement fusillé. Et il y a un tournant considérable qui s'est produit en 1997 lorsque Lionel Jospin prononce sur le chemin des Dames un discours dans lequel il demande la réintégration des fusillés dans la mémoire collective du peuple français. Et depuis, les choses ont fortement avancé. D'abord, il faut savoir que toutes les archives sont accessibles, toutes les archives militaires. Et chose extraordinaire, c'est un général d'active, le général André Bach, qui a produit une thèse remarquable sur les 650 fusillés de l'armée française. Alors maintenant, pour rebondir sur la question de M. Dubois, pour le sort à donner dans la mémoire future aux fusillés, ce qui est important, c'est de dire qu'il est inenvisageable de les réintégrer tous, parce que parmi ces fusillés, il y a des cas de droit commun. Il y a des cas d'espionnage. Donc si un jour il y a réintégration, ça se fera par examen au cas par cas. Une autre remarque qui me vient à l'esprit, c'est que les choses vont bouger très vite. Dans les semaines ou dans les mois à venir, une salle spécifique va être ouverte au musée de l'armée à Paris, qui est l'endroit central de la mémoire militaire, pour évoquer le sort des fusillés. Ils ne sont donc pas oubliés. Une petite remarque annexe aussi. En 1914, l'armée française a donc fusillé 650 de ses hommes. Les Britanniques en ont fusillé 350. Ils les ont tous réintégrés dans la mémoire nationale. Mais l'armée qui a le moins fusillé de soldats en 14-18, on l'ignore, c'est l'armée allemande, puisqu'elle n'a fusillé que 48 hommes. Et les choses changeront bien sûr dans la Seconde Guerre mondiale, où là ce sont des milliers de soldats allemands qui seront victimes de la folie nazie.
Alors vous nous avez parlé de la prise de position de Lionel Jospin. Nicolas Sarkozy s'est également exprimé en 2008 et 2011 sur la question des fusillés pour l'exemple. Selon vous, en tant qu'historien, la nation peut-elle aller encore plus loin ? Qu'attendez-vous de François Hollande de ce point de vue ?
Je pense que dans les semaines à venir, le président de la République va se prononcer officiellement. Il va se rendre au musée des Invalides à l'occasion de l'inauguration de cette salle des fusillés. Donc c'est quelque part la reconnaissance du fait que la nation ne rejette pas en dehors de son corps des hommes qui ont été exécutés entre 14 et 18. Simplement, il faut faire très attention. On ne peut pas mélanger dans un sort unique des gens qui sont morts victimes de la frayeur, victimes de l'horreur des combats, et ceux qui ont commis des crimes de droit commun pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, selon vous, quelle mémoire veut ou doit conserver la nation de cette histoire des fusillés ?
Comme toute histoire, c'est quelque chose de complexe. On doit prendre en compte les différents facteurs. On doit examiner les archives pour voir le déroulement des procès militaires en particulier. Et ce qu'on a découvert grâce aux travaux du général Bach, c'est que le grand fusilleur de l'armée française, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ce n'est pas Philippe Pétain, c'est Joseph Joffre. L'essentiel des fusillés français l'a été pendant la première partie du conflit, en 1914 et en 1915, où l'état-major, qui avait été totalement en dessous de tout pour prévoir une stratégie cohérente, a été amené à sanctionner de façon brutale et sauvage, dans des conditions totalement injustes, des centaines de soldats français. Il faut savoir que dès le mois de septembre 1914, on ne respecte plus les principes de justice ordinaire au sein de l'armée française, et il faudra attendre le début de l'année 17 pour que le pouvoir politique remette les choses au carré.
Alors vous parliez justement de ce musée de l'armée aux Invalides à Paris qui va être mis en place, mais pourtant les associations en demandent plus. Pour eux, ces personnes, ces fusillés ne vont pas être réhabilités dans la conscience collective de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce n'est pas l'État qui le décide, c'est la société qui décide si oui ou non elle réintègre ces hommes. Le fait qu'on s'occupe de leur sort, de leur histoire, ça montre qu'ils ont été réintégrés de facto dans la mémoire collective du peuple français. Simplement, comme toute histoire, elle doit être menée de façon très rigoureuse.
Alors vous nous en parliez tout à l'heure, en Grande-Bretagne, environ 300 fusillés ont été graciés à titre posthume en 2006, une sorte de grand pardon. Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire la même chose en France ?
Tout simplement parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux armées. L'essentiel des combattants britanniques étaient des volontaires. Il est donc difficile de condamner définitivement des gens qui se sont engagés volontairement pour aller combattre en France, pour un pays qui n'était pas le leur. En France, ce sont des conscrits. Ce sont des soldats qui sont soumis à la discipline militaire, au règlement militaire. Donc on est dans un autre cas de figure.
Alors j'ai une dernière question concernant l'action de la Libre Pensée, donc la mise en place d'un monument commémoratif pour les fusillés, pour l'exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense que c'est tout à fait légitime. La Libre Pensée, dans les années 20, a mené un combat très important pour réhabiliter certains des fusillés, notamment les quatre caporaux de soins. C'est tout à fait dans la lignée de l'action de cette association et c'est parfaitement cohérent.
Merci Agathe Doisy, merci Yves Lemeneur. Alors avant de conclure, on va revenir finalement sur la première question qu'on vous a posée ici dans Parlons Franf. Concernant le centenaire de cette Première Guerre mondiale, est-ce que le Nord en fait trop ?
Non, le Nord n'en fait pas trop. Le Nord, spontanément, marque de façon majeure cet épisode tragique et unique dans l'histoire du pays et de la région. Quand vous regardez les photographies aériennes qui ont été prises à l'issue du conflit et que vous voyez des taches blanches sur des kilomètres carrés et des kilomètres carrés, parce que la guerre a tout anéanti, les villages, les champs, les forêts, ça a tellement traumatisé la population régionale qu'il était tout à fait naturel qu'un siècle après, les descendants de ces gens marque l'événement à la hauteur des faits.
Justement, 100 ans après, ça marque encore les gens de la Première Guerre mondiale ?
Bien sûr. Quand vous...
C'est pas une crainte, justement,
ah
ça ?
Non. Quand vous longez le front, entre Bapaume et Armentières, vous rencontrez sans cesse des tas de cimetières militaires de toutes origines, des Français, des Allemands, des Britanniques, parfois perdus dans les champs, des petits cimetières avec 40-50 tombes britanniques au milieu d'un grand champ de blé. Vous traversez des villages qui ont été reconstruits dans les années 1920, mais qui ont perdu leur âme. C'était des villages qui existaient là depuis des siècles et qui ont été balayés en quelques mois par les bombardements. Ces villages, quelque part, ils sont morts. Ils ont été repeuplés, ils ont été reconstruits, mais ils ont perdu leur âme.
Dernière question, Yves Lemeneur, peut-être de René Lavergne avant de conclure. René.
Oui, on a parlé, bien sûr, de tous les morts hein, par cette guerre 39-45, 14-18 et 39-45. On a oublié peut-être ceux qui ont accompagné... Les soldats, je parle des personnes qui sont venues de Chine notamment.
Alors, cette guerre, elle a été par définition mondiale. Et parmi les gens qui sont venus sur le sol des combats, il y a des travailleurs qu'on disait exotiques à l'époque, vous voyez, avec une forme de mépris. Il y avait des Chinois, certes, il y avait également des Égyptiens, il y avait des Fidjiens, il y avait des hommes des Antilles, il y avait des Noirs sud-africains qui étaient utilisés soit par l'armée britannique, soit par l'armée française, comme auxiliaires pour faire des tâches non armées, pour transporter les munitions, pour nettoyer le champ de bataille, pour inhumer les morts. Et donc, ces hommes ont été très durement traités. Ils ont été d'ailleurs en grande partie rejetés par la population locale au lendemain de la guerre parce qu'ils étaient si différents. Vous voyez donc ce traumatisme qu'a été la Grande Guerre s'est traduit par des brassages de populations inouïes sur le sol du Nord-Pas-de-Calais. Imaginez qu'on est venu du nord du Canada, du sud de la Nouvelle-Zélande, du sud de l'Afrique sur le sol de notre région.
Merci Yves Lemener, monsieur centenaire pour la région Nord-Pas-de-Calais en charge des commémorations de la Première Guerre mondiale ici dans la région. Bon courage pour ces commémorations.
On en a.
Donc le 11 novembre, vous serez là, par contre vous serez stressé le 11 novembre.
Ah oui, pas stressé, non, parce que le monument est magnifique, parce qu'il y a un accord unanime des partenaires qui ont travaillé avec nous en Angleterre, en Allemagne, pour reconnaître la grande qualité de cet équipement.
Eh bien écoutez, en tout cas, bon courage, merci aux producteurs, aujourd'hui Agathe Doisy de RPL, Radio Paco Lambersa, René Lavergne de Radio Campus à Lille, Nicolas Bunier de PFM, à la technique, Sylvain Cato, la coordination, Bruno Reguet. Très rapidement, prochain numéro de Parlons Franf, ce sera début décembre, Parlons Franf, le magazine de la Fédération des radios associatives du Nord de la France. On soufflera avec son directeur Xavier Dectot les deux bougies du Louvre-Lens, l'occasion d'en dresser un premier bilan culturel et économique, et également d'en mesurer les retombées en termes d'aménagement du territoire et de décentralisation culturelle. Très beau programme. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Excellente journée.